des âmes charitables te disaient.
Oui, il y a des gens qui sont venus me voir ensuite, me dire en confidence, écoute, ce que tu as fait, c'est très grave. Hein? Notre chef, il a du mana, hein? Il est descendant de Noir I, et il peut te donner la lèpre. Hein? S'il te jette un sort, c'est fichu. Hein? J'écoutais, je l'attends, son sort. Hein? De toute manière, moi, j'y crois pas. Hein? Ça m'étonnerait beaucoup que je devienne lépreux à la suite de ça. J'ai fait mon boulot comme je devais le faire. Je n'ai rien à regretter. Attendons, on verra bien. Alors, tu vois que ça n'a pas marché, son truc. Hein? Je ne sais pas s'il a eu l'intention de me rendre lépreux, d'ailleurs. Je ne peux pas dire, hein? De toute façon. Mais à Loruto, leur façon de vivre qui était vraiment très, très, très intéressante.
Mais tu étais à Molay, mais tu connaissais Avera, Raouti.
Ah ben oui, j'y allais régulièrement. Oui.
Il y avait encore à cette époque-là le télé qui se faisait normalement toutes les fins d'année.
Ah, bien sûr. Oui, l'inspection des maisons, en quelque sorte. Quoi.
Il y a ça, il y a la visite des maisons, mais il y a aussi ce télé qui fait se déplacer les districts, dans les autres districts, où il y a les récits légendaires, et où les jeunes des districts portaient la pierre.
Ah non.
À Molay, au fait.
Non, j'ai pas vu
pendant
ça.
Pendant 3 ans, t'as pas vu ça.
Non.
Ah, peut-être que ça s'est fait.
On l'a peut-être remis en vigueur par la suite. Peut-être. Je regrette parce que ça m'aurait plu. Et je m'en rappellerais si je l'avais vu. Vraiment.
Et la pêche à la baleine, est-ce que tu en as vu?
Là, c'est encore pire que le supplicier. À demi-fou. Oui. À l'époque où j'étais là-bas, ils ne pêchaient plus la baleine. Ils avaient encore leur harpon et tout ce qu'il fallait, les baleinières, bien sûr, mais on leur avait interdit. Le gouverneur de la colonie avait pris un arrêté, je ne sais pas combien d'années auparavant, qui leur a interdisé la chasse à la baleine. Non pas pour des raisons d'écologie. À l'époque, les baleines étaient nombreuses, ça n'était pas un problème. Mais parce que, à plusieurs reprises, il y avait eu dans le passé des accidents. Il était arrivé que, dans l'excitation de la chasse, des baleinières disparaissent à l'horizon, remorquées par la baleine. Et que, ça se fait, les gens se perdent dans le Pacifique, ayant perdu de vue leur île, aucun moyen de se repérer, ils ne pouvaient plus retrouver leur île. Alors, pour éviter de nouveaux drames, le gouverneur avait interdit la chasse à la baleine. Bon, très bien. Et puis un jour, il se trouvait que Fred Hahn, qui ne résidait pas en permanence à Loruto, était là, pour un petit séjour. Et alors, les chefs de district sont venus le trouver en lui disant, écoute, c'était en pleine guerre, nous n'avons plus de Punu Puatoro ou de Punu Tamano chez les Chinois.
Punu Tamano,
les boîtes de saumon. Punu Puatoro, c'est les boîtes de bœuf. Punu Tamano, ça c'était l'alimentation des jours de Maramu, où on ne pouvait pas aller à la pêche, naturellement. Mais bon. Et il n'y en avait plus. Le ravitaillement n'était pas toujours très régulier en temps de guerre. Alors, on vient te demander l'autorisation de pêcher la baleine. C'était à l'époque où les baleines étaient là, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, en juin-juillet. Bon, Fred Hahn prépare un télégramme, il dit, voilà, Bouvier, vous passez ça à l'adresse du gouverneur. Le gouverneur répond, ok, pour une baleine. Très bien. Alors, nos gars préparent leur... Ils réaffûtent leur outillage, leur harpon, tout leur truc. Et puis alors, en grande cérémonie, le gars le plus calé, je me rappelle, c'était un nommé... Non, je ne me rappelle plus son nom.
C'est dommage.
Peut-être Théaniva, mais je n'en suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est Théaniva, mais je n'en suis pas sûr. Il habitait presque en face de ma station, de mon bureau d'ailleurs, plein village. C'était le harponneur le plus habile, paraît-il, de l'île. Il se pointe au bord de la mer, on met des baleinières à l'eau, avec les harponneurs, les rameurs, les harpons, tout ce qu'il fallait, les lignes aussi, les cordes. Et puis, les voilà partis. Toute la population, naturellement, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça, se rassemblent sur la plage, là, à Moerei. Tu connais Moerei, le récif côtier à Patagon. Donc les baleines arrivaient au ras du récif côtier.
Ah bon?
Oui. Les femelles avec les petits, ils venaient. Les mâles restaient au large, à l'horizon. C'est ce que me disaient les gens, tout au moins. Ils disaient, c'est les mères avec les petits qui sont là. Parce que elles viennent accoucher, mettre bas dans les petits fonds, assez chaud quand même. Hein. Bon. Alors, on en voyait qui passait, là. Bon. Alors, les gars, ils sortent avec leur baleinière. Et puis, bon, ils s'approchent d'une baleine. Pouf, elle plonge. Elle ressort 500 mètres plus loin. Ils essayent d'en approcher une autre. Même truc. Puis, enfin, il y en a une qui est moins méfiante qui se laisse approcher cette fois. Le dessus de la tête émergeait toujours. Hein. Quand la baleinière, notre amitié Aniva, se pointe à toucher la baleine hein, sur son élan. On avait relevé les rames, l'harpon arrêté à l'avant, son harpon en l'air. Hein. Et on a vu la baleine se laisser approcher, puis tout doucement tout descendre, n'est-ce pas? Et l'autre hésitait toujours avec son harpon, et quand elle a lancé son harpon, ben le harpon est tombé dans l'eau, tout simplement.
T'étais sur la baleinière?
Hein, non, moi j'étais à terre, à 50 mètres de là, quoi. 50 mètres, 100 mètres de là, ça, on voyait tout, naturellement. Alors, une clameur de désespoir. À terre, le gars se faisait vraiment conspuer, hein. Bon, alors, c'était la perte de face. Bon, alors, ils savaient plus quoi faire, tous, avec leur rame et tout ça. Toutes les baleinières étaient en attente. Et puis, tout d'un coup, on avait sorti la baleine un peu plus loin. Ils ont couru après, pendant toute la journée. Ils ont tourné autour de l'île après les baleines. À la fin de la journée, il n'y avait pas une baleine de piquer. Puis ça a été fini comme ça, cette histoire de pêche à la baleine. C'est la seule fois où j'ai vu harponner une baleine. Oui, parce que le harpon, il a fait ça, tac, 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 tac. Et puis on a vu le haut du manche de harpon qui sortait de l'eau, tout simplement.
Il y avait combien de baleinières, par exemple, pour cette pêche?
Deux ou trois, je ne me rappelle plus exactement. Oui.
Donc il n'y avait que trois harponneurs.
Oui. Les autres étaient... Ça suffisait. Ça suffisait largement.
Donc tu n'as pas pu goûter de la baleine de...
Non. Non pas. Par contre, j'ai vu construire des baleinières en une journée.
Et qui était le charpentier, enfin, en chef?
Ben, ça se passait encore chez ce gars-là. Oui. Parce que... Là, ça nous introduit dans la sociologie de l'île à l'époque. C'était extrêmement intéressant et bien organisé. Hein. Parfaitement adapté aux conditions de vie des gens. Et à leur mentalité aussi. Ça leur permettait de subvenir aisément à tous leurs besoins et en même temps de garder une très forte cohésion. Hein. La communauté était solide parce que elle était rassemblée non seulement par des liens de parenté, d'amitié et tout ça, mais aussi par les liens du travail et de l'intérêt particulier lié à l'intérêt général, absolument. Ainsi, les femmes étaient groupées en poupous. Au sein de chaque paroisse, il y avait un certain nombre de poupous. Bon. Les hommes, la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pour les travaux féminins, qui étaient essentiellement... la récolte des feuilles de paeore, hein, et leur traitement, et puis ensuite l'utilisation, le tressage des péouées, des chapeaux, etc. Tous ces travaux-là se faisaient en équipe, tout le poupou travaillait un jour par semaine pour un de ses membres à tour de rôle.
Ah oui, c'est ça.
Tous les lundis, les hommes de leur côté, les femmes de l'autre, travaillaient pour un membre de leur poupou. Alors, le travail était gratuit, mais le bénéficiaire était chargé de nourrir toute l'équipe dans la journée. Et ça revenait à un salaire assez important quand même, parce que à Rurutu, on a de l'appétit. Hein. Alors, voilà.
Vous avez le tour de chaque membre du
poupou. Ah oui, à tour de rôle. Et on pouvait même entrer dans ce... même si on n'était pas de là. Pauline est entrée dans un de ses poupous. Comme elle ne savait pas dresser, eh bien, elle payait tout le mât du poupou pour travailler pour nous ou pour un autre. Enfin, peu importe si on avait besoin ou pas. Hein. Bon, donc c'était pas comment dirais-je xénophobe, absolument pas. Ils accueillaient même des gens du dehors en besoin, qui résidaient là, bien entendu. J'ai vu faire des tas de POE en une journée, c'est fantastique, hein. Et puis, bon, ben, en ce qui concernait les travaux des hommes, c'est comme ça qu'ils construisaient leur maison, qu'ils plantaient leur taro. S'il y avait un champ de taro à préparer, hein, pour un membre du groupe, et ça se produisait régulièrement, le matin, le terrain était en brousse, enfin brousse légère, je veux dire. Hein. Depuis la dernière récolte, une petite brousse avait poussé. Le soir, le champ était planté.
Tout le monde était nourri.
Et tout le monde était nourri. Mais alors, pour ce qui était de la nourriture, là encore, le poupou y participait à sa façon. Par exemple, pour le poisson, eh bien, le chef du poupou déléguait deux ou trois membres du groupe pour aller pêcher le poisson. Un ou deux membres pour faire le hima, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Hein? Bon. Et d'autres pour aller déterrer les taros dans le champ du bénéficiaire, par exemple. Donc, tout le monde ne travaillait pas sur la maison, sur la baleinière ou ailleurs. Le travail était partagé, même au bénéfice du poupou lui-même.
Il y avait une répartition des tâches.
Tout le monde. Eh bien, j'ai vu en une journée construire une baleinière de récif énorme. Hein? Le bénéficiaire avait préparé son bois, tout au moins le bois de la coque, le bois du bordé, hein. Mais les membrures et la quille étaient encore en fleurs dans la brousse le matin. Il y avait une équipe de bûcherons, deux ou trois, qui partaient dans la montagne couper des bouraous, surtout des bouraous. Parce que on trouve du bois courbé déjà naturellement et c'est beaucoup mieux comme ça. Il y avait le charpentier qui les attendait en bas, bon. Et puis ils apportaient leur madrier, leur tronc, leur branche ou leur tronc de bourreau ou d'autres bois dans la cour du gars. Et là, le gars, à l'herminette, avec ses aides, il taillait ça. Et sans compas, sans rien du tout, hein, à l'œil comme ça. Et il ne se trompait pas. Je vais te dire qu'il ne se trompait pas. Hein. C'était parfaitement exécuté. Alors, l'autre avait donc les planches du bordé. C'était généralement du bois de lilas du Japon qu'on appelle du tira, là-bas.
Ah, le tira, oui.
Parce que c'est un bois résistant, souple et facile à travailler, qui se courbe facilement. Il avait donc préalablement abattu ses arbres. On les plantait uniquement pour ça, d'ailleurs, pour ça, pour faire des planchers de maison, des choses comme ça. Et les avait apportés à propriété dans un chantier de construction de goélettes, les avait fait débiter en planches, les avait rapportés à Routou, les avait mis assez séchés comme il fallait. Donc, quand tout ça c'était tout prêt, il avait sa réserve de clous, enfin, tout ce qu'il fallait. Toute la ferraille qu'il fallait. Et ben, le matin, je te le dis, il y avait les planches d'un côté, il y avait les bourreaux qui étaient dans la montagne. Hein. Le soir, la baleinière était sur la plage. Et ce qui stupéfiait Fredan, qui était capitaine de goélette, hein, donc marin, c'est qu'il n'a jamais vu ces baleinières dont toute la charpente était faite en bois vert se déformer au soleil, car il n'y avait pas de hangar à bateau en plus. On les laissait sur la plage, en plein soleil, en plein pluie et tout ça, et ça ne bougeait pas.
C'est la question que j'avais posée. Que si les arbres poussaient encore dans la montagne,
ça ne se déformait pas. Ils employaient des clous d'une longueur, fallait voir. C'était cloué. Ça tenait.
Donc c'est des baleinières qui servaient. Il y avait des pirogues de pêche
et ces baleinières... Très peu de pirogues, surtout des baleinières. Enfin,
surtout des baleinières.
Oui, enfin. Il y avait des pirogues, bien sûr. Pratiquement, je dis très peu. Dans chaque famille, il y avait une petite pirogue qui permettait d'aller à la pêche les jours calmes. Mais les autres jours, on ne pouvait sortir qu'en baleinière. Et quelquefois même, on ne pouvait même pas sortir en baleinière, voir la mer battre. Les jours de Toerau, par exemple, à Moerei, hein, là, le vent du nord qui arrivait direct, là, ça brisait sur le Tenerife. Impossible de sortir.
Parce que cette baleinière que tu as dû construire, elle servait à toucher la goélette à...
Elle servait à aller à la pêche, surtout à aller à la pêche. Et à la saison, surtout à la pêche de nuit au marara, au poisson volant. Et alors encore là, la solidarité et les lois du pays le stipulaient, car les lois en question n'avaient rien de la solennité de nos codes européens. Hein. Ça traitait de la pêche au atouré, de la pêche au marara, de la plantation des tarots, n'est-ce pas?
Et ce code, toi, tu l'as vu, tu l'as lu?
Oui, et je regrette de ne pas en acheter un à l'époque, parce que ça se vendait à l'imprimerie du gouvernement à l'époque. Ah, il y avait le code aussi des îles sous le vent. Ça vaudrait la peine d'en faire rechercher.
Parce que ça traitait de la vie quotidienne.
Je ne sais pas si, dans la bibliothèque de la Société des études océaniennes, il n'y en a pas, il devrait y en avoir. Alors, la pêche au marara. Quand c'était la saison du marara, on le pêchait de nuit. La technique était simple. On le pêchait au rama, c'est-à-dire à la torche en iaou, en feuille de cocotier séchée. Tous ceux qui apportaient un rama sur la plage avant le départ avaient droit à une filoche de marara gratuite le lendemain matin.
Quoi de plus simple, hein?
Oui, mais enfin, il fallait quand même que les pêcheurs travaillent pour tout le monde. C'est facile, c'est pas un grand travail de fabriquer un rama. Mais il fallait passer sa nuit dehors ensuite à pêcher les poissons volants. Alors, il y avait le gars avec sa torche debout dans la baleinière, et le pêcheur, lui, il avait comme un filet à papillons, hein, il les attrapait au vol comme ça. Il les jetait dans le vent. Il y avait des quantités énormes de madame à pêcher. Hein. Chacun avait sa filoche. Alors, dans les grandes familles, on apportait 2, 3, 4, 5 ramas, évidemment. Hein. Mais moi-même, qui n'était pas du pays, hein, j'étais invité à apporter mon rama aussi. Alors, on avait un petit boy à la maison qui travaillait avec nous, hein, qu'on logeait d'ailleurs, un peu comme l'enfant de la famille. On l'avait pris, on lui donnait un petit salaire, et on le nourrissait, on l'habillait, tout ça. Bon, et il nous faisait le rama quotidien pendant la saison du marara, du poisson volant.
Qui est à Arudutu, c'est quel mois?
Je ne me rappelle plus d'ailleurs. Je crois que c'était à l'époque du frais de la ponte. Ils doivent se rapprocher de terre pour pondre, j'imagine, comme ils font à Huahine. Alors, bon, il y a ça. Le atouré, c'est une autre histoire encore. Il était interdit aux gens de Rulutu, par leur loi, de pêcher ce poisson individuellement.
Ah bon?
Oui. Ils étaient convaincus, et ça c'est une tradition ancienne, hein, là c'est intéressant pour vous, ils étaient convaincus que si quelqu'un pêchait individuellement, ne fût-ce qu'un seul atouré, tout le banc repartait au large. Et il était perdu pour la population. Que ce soit un coup d'harpon, que ce soit à la ligne, personne ne se serait aventuré à pêcher un atouré. Bon. Mais lorsque le banc de atouré approchait de terre, et quelquefois il arrivait jusque sur le sable, pratiquement, alors à ce moment-là, dans chaque village, il y avait un filet. Et tout le village pêchait le banc. Et ensuite, lorsque le banc était pêché, ils avaient obligation de le distribuer dans toute l'île. Voilà. Alors, je me rappelle, dans les trois districts, les trois villages.
Quel que soit l'endroit où le.
Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Et alors, bon, je me rappelle une nuit. Jean-Pierre d'ailleurs était né à l'époque, il était dans son berceau, nous on dormait bien. Je me rappellerai toujours, c'était une nuit de pleine lune, hein. Une nuit magnifique. Ça éclairait formidablement et c'était un lundi soir. Oui, pourquoi je me rappelle de ça? C'était tout simple. Parce que tous les lundis, à Moerei, les trois juges de l'île se réunissaient dans la salle de justice qui était construite dans la cour de la résidence pour juger les petits délits de la semaine. C'était d'ailleurs assez pittoresque. Hein. Les pépés et les papis du village n'ont jamais raté ça. Alors, tous les vieux étaient là, pas les vieilles elles étaient sur leur POU en train de presser. Mais les vieux, ils venaient, ils s'étaient bien habillés pour la solennité de l'événement. Il y avait le grand juge qui était à Oti, je me rappelle qu'il s'appelait Hirorau Ataputu. Hirorau. Tout le monde l'appelait Hiro. Il n'y a pas de H dans la langue de Ruotu. Autrement, ça aurait été Hiro. Hein. Bon. Et puis, il y avait les petits juges des deux autres districts qui étaient là aussi. Et tous les délinquants de l'île étaient là. Bon, il y avait généralement deux ou trois galopins, c'était tout. Hein. Des galopins qui avaient volé des régimes de bananes aux vieux pour faire de la bière de banane dans la brousse, s'enivrer le jour du Seigneur, et puis, bon, Hamanino une tamahine, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Hamanino, si on avait demandé l'avis de la fille, ça aurait plutôt... Elle aurait dit Hamani Maïté, plutôt que Hamanino. J'en suis certain. Enfin, les vieux, pour eux, qui avaient fait la même chose quand ils étaient galopins, se scandalisaient à leur âge, bien évidemment. Ou encore, des galopins, après avoir bu, étaient allés faire du bruit autour du temple pendant le culte. Bon. Alors, ça donnait lieu à un interrogatoire. Bon, ça donnait lieu à un interrogatoire particulièrement humiliant pour le gars. Il était bon ton que le coupable baisse la tête ostensiblement, et puis avoue ses fautes, etc., etc. Alors, avant que le juge ne prononce sa sentence, il y avait le jury, les curieux, tous les papis du coin, qui admonestaient le gars, les uns après les autres. C'était l'engueulade générale, quoi.
Il y avait des commentaires publics.
Ah oui. C'était en quelque sorte le réquisitoire. Puis après, le juge prononçait sa sentence. Alors, d'une voix tonitruante, et condamnait le gars à 5 francs d'amende.
Il n'y avait pas de travaux.
Alors, s'il n'avait pas d'argent, il devait donner une journée de travail sur la route pour boucher quelques trous avec des galets et du sable. C'était tout.
Ah, donc, c'était pas des travaux utilitaires de la... qui étaient entre les mains des poupous. C'était un autre type de travail, style.
Oui, la route généralement. Quelques trous à boucher sur la route et ça y était. C'était terminé avec ça. Et tout le monde était content. Les vieux rentraient glorieux chez eux. Ils avaient fait leur devoir de justicier, etc. Tout le monde était content. Et alors, il restait là un bon moment. Tout l'après-midi, tout avait été réglé en une heure ou deux le matin. Mais c'était si bon de se retrouver, hein, si bon d'échanger les derniers potins de l'île. Et quand les potins, il n'y en avait pas beaucoup, étaient épuisés, on racontait les vieilles histoires du temps jadis, n'est-ce pas? Et tout ça, dans la salle de justice, tout le monde était content, les juges et les autres. Et à la fin de l'après-midi, on se séparait. Les gens de Avera reprenaient leurs chevaux. Il n'y avait pas de route, hein. On passait par-dessus la montagne, on longeait les plages, etc. Et ceux de Haouti aussi. Or, ce soir-là, c'est pour ça que je me rappelle que c'était un lundi soir, les gens de Haouti rentraient chez eux. Ils s'étaient attardés plus que de coutume, et la piste pour aller chez eux longeait à un certain endroit une plage de sable blanc, là. Bon, ils marchaient donc avec leurs chevaux dans le sable dur mouillé, à la limite de l'eau, bien entendu, hein. Et la lune éclairait tout ça. Il est suite pépé. Tout d'un coup, il y en a un qui dit, hé, regardez dans l'eau, là. La lune éclairait un banc de la tourée, mais alors c'était un tapis d'argent qu'il y avait dans l'eau, hein. Pas besoin de leur faire un dessin, tout le monde avait compris. On pique des deux, hein. On passe au galop, on passe à la montagne, on arrive là-bas, on réveille tout le monde, on rassemble tout le monde, on ramasse les filets, et hop, on retourne sur place, on cerne le banc, on pêche, bon, et puis après, on envoie des distributeurs dans les deux autres districts, à cheval aussi. Et nous, il était peut-être minuit, enfin, c'était vraiment le milieu de la nuit, tout le monde dormait bien à Moera, et tout d'un coup, on entend des hordes de Mongols qui marquent là-dedans, « Hey, 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 Atouré, Atouré, Atouré !» Bon, tout le monde se réveille, moi j'avais le sommeil un peu lourd, j'entends des pas puissants qui boum, boum, boum sur ma véranda, les portes étaient fermées, boum, 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 pourriez, pourriez, pourriez. Ou alors les autres pouviers, pouviers, enfin, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec mon nom, n'est-ce pas? Et réveille-toi, tiens, bon, qu'est-ce qu'il y a? Atouré. Je n'étais pas au courant, moi, hein. Je n'avais pas spécialement lu cet article de Lorloy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Atouré? On met le nez dehors tous les deux, on nous débarque. Deux pleins sacs de copra pleins de Atouré. Poum, voilà pour vous deux. Mais enfin, on ne pourra pas manger que ça. Donnez-nous quelques Atouré, ça sera suffisant. Non, 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 c'est ça pour vous. Il y en a plein pour tout le monde. On était envahis de Atouré. J'aime mieux te dire qu'on était plutôt gênés. Bon, tant et si bien que Pauline a... On en a mangé frais, mais enfin. Tout le reste, Pauline a essayé de le saler et de le sécher. Je crois qu'elle a raté son coup, d'ailleurs. Alors, il a fallu que finalement, on donne ça au cochon du voisin. Enfin, le geste était fait, la coutume était respectée.
La loi
était respectée. Une autre fois, il y a eu un mariage particulièrement huppé, disons dans l'aristocratie locale, je ne me rappelle plus de qui il s'agissait. On a tué un gros cochon. Et on a vu arriver à la maison un gars qui nous apportait notre part du cochon. Et j'étais sidéré de voir, il y avait le gars avec une grosse tête de cochon, la tête. J'aurais préféré qu'il m'apporte une cuisse. Hein. Je me suis renseigné, mais c'était le morceau réservé au roi, ça, autrefois. Le morceau de choix. Il n'était pas de choix pour moi. Alors, heureusement que Pauline avait un livre de cuisine, elle avait la recette du pâté de tête, elle a fait un pâté de tête, finalement, avec le cochon. C'est pour dire que les traditions étaient extrêmement vivantes à cette époque-là. Et là, tu peux me demander s'il y avait un autre blanc dans l'île, il n'y en avait pas.
Personne.
Avant de partir, dans l'administration, on avait essayé de m'effrayer en me disant, les copains me disaient, fais attention, tu risques ta peau en allant à Rutu. Pourquoi? Ils ont déjà tué un gendarme là-bas, hein, qui leur plaisait pas. Ah oui, ils avaient déjà tué. Ça remontait à 1918, 19 ou 20. Il s'agissait à l'époque d'un Martiniquais, ancien combattant, unijambiste. Il avait perdu une jambe à la guerre, il avait une jambe de bois. Grand buveur de rhum et très violent. On l'avait envoyé là-bas, un agent spécial. Gendarme, agent spécial, bon, très bien. Les gens l'avaient accueilli comme toujours, avec méfiance. Ils sont comme ça là-bas, à l'auto, hein. Ils ne te reçoivent pas comme ça, à bras ouverts, comme à Borobora, par exemple. Absolument pas. C'est pas du tout la même mentalité. C'était comme ça, tout au moins à l'époque. Ils vous reçoivent avec beaucoup de réserve. Ils vous voient arriver, ils vous regardent de loin. C'est sous bénéfice d'inventaire, tout ça. Bon, hein. Il est gentil, il est pas gentil, on sait pas. C'est à l'usage qu'on décidera. Bon, très bien. Le gars, il avait été vite tombé tout de suite, comme un ivrogne invétéré, particulièrement violent, qui se baladait partout avec son revolver, à la main, en voulant faire obéir les gens, sous menace de mort, pratiquement. Et alors, il avait fait condamner, selon la justice locale, un certain nombre de gars à une journée de travail, un jour, et il cultivait des légumes dans le fond de la cour. Et le fond du terrain de la résidence à l'époque, comme de mon temps, se terminait dans un marécage avec des roseaux. Il voulait faire débrousser une partie de ce marécage, pensait trouver de la bonne terre là, je ne sais pas trop. Et il rentre chez lui, il se remet à son rhum pur, ou à son rhum pur, je ne sais trop. Il revient complètement ivre, avec son pistolet à la main, Les gars étaient en train de travailler, ils ne travaillaient pas assez à son gré. Hein. Ils commencent à les insulter. Ensuite, il était en courant, un coup de feu en l'air, il les menace de son pistolet. Les gars, complètement paniqués, se précipitent sur lui pour le désarmer. Hein. Dans la bagarre, le gars perd l'équilibre.